Barra Inclinada, Canal Espanyol.
Bonsoir, Kiaora, good evening. Vous êtes sur Amuse-Gueule, la radio des francophones et des francophiles. On a une émission un peu hétéroclite ce soir. Alors, déjà, à la technique, on a Yvan. Bonsoir, Yvan.
Bonsoir à tous.
Laura, qui va nous parler de bonnes choses à manger.
Bonsoir à tous.
Et puis, on a un petit visiteur clandestin, Zvi. Bonsoir, Zvi.
Bonsoir.
Qui est juste là pour écouter. On va également aussi parler avec Anne-Catherine Beru, qui a une radio un peu comme la nôtre à Christchurch, et avec qui on va collaborer. Et puis, on en parlera plus longuement avec elle. Et puis, si on a encore le temps, on écoutera aussi Robbie Ellis, notre technicien bien-aimé qui n'est plus là, puisqu'il habite à Chicago maintenant. Et à ma demande, j'ai demandé à plusieurs personnes, des anciens en fait d'Amuse-Gueule, de nous faire des petits sujets. Ils sont tous partout dans le monde. Il y en a à Paris, à Chicago, Fidji, l'Australie, voilà. Donc tous ces anciens, la Belgique aussi, donc tous ces anciens participants d'Amuse-Gueule vont vous envoyer des petits sujets comme ça de temps à autre. Je voulais faire une émission consacrée qu'à ça, mais je crois qu'on va faire ça par au compte-gouttes. On va apprécier ça comme des bonnes petites liqueurs.
Ça tombe bien, ça fera le lien avec la première chanson.
Ben voilà, très bien.
Ce qui nous lie.
Voilà, hein? Oui, impeccable. Oh, quelle transition, Yvan.
Thank you.
En attendant, je pars. En attendant, je pars.
Extrait du film Ce qui nous lie de Clapiche. Excellent film qui se déroule en Bourgogne.
La plus belle région de France.
La plus belle région de France et bien sûr le meilleur pinot noir du monde.
Oui.
Ouais, très très bon film de Clapiche.
Ok, donc on le recommande.
Ouais.
Laura, quand on travaille dans la restauration, on a des petits avantages quand même.
Eh oui.
Donc tu m'as parlé de c'est un livre. Qu'est-ce que c'est exactement cette petite merveille?
Alors c'est un livre, tout à fait. C'est un livre où on peut trouver en fait des réductions, des bons plans. Donc c'est surtout quand on travaille dans la restauration qu'on peut l'avoir. Et en fait, donc il regroupe plein de restaurants, mais pas que des restaurants. On a aussi des activités, par exemple pour les enfants. On a aussi des locations de voitures. Vous avez vraiment plein de choses différentes. Pour les avions aussi, pour des vols. Voilà, c'est vraiment assez complet. Et donc on peut surtout trouver, si on a la chance de travailler dans un lieu qui est partenaire avec le livre.
Oui.
Donc c'est le plus facile pour pouvoir l'acheter.
Oui.
Donc il coûte 70$
oui.
Et c'est valable pour un an.
D'accord.
En fait, donc là, ça va être jusqu'en juin 2018. Donc c'est chaque juin de chaque année.
D'accord.
Qu'il est renouvelé. Et donc du coup, jusque juin 2018, j'ai ce livre. Donc je l'ai acheté et j'ai déjà remboursé en fait
oui.
les frais des 70$. Ça va très vite.
La majorité des offres, ce sont des restaurants quand même. C'est
oui,
plutôt, oui,
tout à fait. Ouais. Alors il y a plusieurs catégories de restaurants.
Okay.
C'est classé. Donc on a la première partie, c'est plutôt les restaurants plutôt chics, contemporains. On va y trouver plus de la cuisine européenne, méditerranéenne, des choses plus voilà, de ce style-là.
Et c'est sur toute la Nouvelle-Zélande ou...
Alors, il y a des éditions différentes pour chaque région. En fait.
D'accord.
Donc ce livre-là que moi j'ai, c'est spécial Auckland et les alentours. Il y a aussi quelques restaurants qui sont pour Bay of Island. Quelques restaurants.
D'accord, ok.
Mais ça reste vraiment surtout Auckland.
C'est un rayon quoi, d'une heure à une
ouais,
heure autour
oui,
d'Auckland
oui,
à
peu tout
près.
À fait. Voilà, ouais, une heure ouais. autour d'Auckland, à peu okay. près, tout à fait. Mmh. Et donc, il y a plusieurs éditions qui font toute la Nouvelle-Zélande.
Mmh.
Et il y a même en Australie également,
d'accord.
des éditions.
Okay.
Mais du coup, voilà, chaque livre, c'est que pour vraiment une ville, on va dire, une ville et ses alentours. Mmh.
Et tous les restaurants ne sont pas dedans, bien entendu. Par exemple, le French Café, est-ce qu'il y a des restaurants de cet ordre-là ou...
Oui, tout à fait. Ouais. Il y a le French Rendez-vous à Takapuna.
Oui, ok.
Qui est dedans.
Ouais.
Il y a la Fourchette à Saint-Hélier.
Oui.
Par exemple. Il y a Annabelle aussi à Saint-Hélier.
D'accord.
Alors, je ne sais pas si c'est français, mais ils disent que... C'est de la cuisine style français. Mmh. Enfin, Annabelle, ça sonne assez français.
Ouais.
J'ai pas encore essayé, mais...
Il y a le garde-manger aussi.
Il est pas dedans.
De c'est à Queen Street.
Ah non, je connais.
Le garde-manger.
Ah, le garde-manger, oui, t'as raison, oui.
Oui. Il est pas dedans, par contre, celui-ci.
Mmh. Ouais. Ok, donc Alexis, moi, je t'ai coupé dans ton élan. Donc, tu disais, donc il y a des restos plutôt chics. Ça, c'est
des restaurants plutôt chics. Donc, ça, c'est une catégorie.
Et alors, quand tu dis chic, c'est des prix.
Plutôt des prix... plus de $35 le plat.
D'accord, ok.
Pour un plat,
oui,
pour un plat principal, ça va être dans les $35 le plat.
D'accord.
Donc, il faut avoir des sous.
Voilà.
Hein
voilà.
Ouais, mais c'est chic, les chics, le resto chic, tu vas pas si t'as pas des sous. Hein,
ça.
En fait, si tu peux, tu peux économiser.
Ils font pas dans le social.
Non, c'est bien.
Mais bon, l'avantage avec ce bouquin, c'est que du coup, si on achète un plat, on a l'autre plat gratuit.
D'accord. Ah, c'est bien, ça.
Donc, c'est pour ça que voilà, je peux me permettre, du coup, j'ai pu en essayer quelques-uns, parce que voilà, il y a... Le fait d'avoir un plat gratuit, c'est quand même
très
bien.
Oui,
ça aide énormément.
Donc on achète un plat et on a l'autre gratuit. Quoi.
Tout à fait.
Donc on peut venir à deux et...
Voilà, tout à
c'est
fait.
Bien.
Du coup,
question juste pratique, tu arrives avec ton petit coupon ou tu les préviens à l'avance que tu as un coupon
Alors moi je réserve en général parce que bon, étant dans la restauration, je sais que j'aime bien quand les clients réservent. Donc j'essaie de faire pareil quand je peux.
Ouais.
Et du coup... Non, je dis rien.
Oui.
Je dis rien par rapport au coupon. C'est qu'au moment de payer
d'accord,
que je montre. Donc, il y a les restaurants contemporains de luxe. On a une carte. Ils appellent ça la gold card, la carte
d'accord.
en or. Donc, elle est dorée.
Oui.
Et derrière, il y a des numéros. En fait, plein de numéros.
Oui.
Et chaque numéro, c'est un restaurant qui est dedans.
D'accord. Ça
et du coup, chaque fois qu'on va dans un de ces restaurants, on présente cette carte et ils rayent en fait leur numéro. Mmh. Comme ça, on peut pas y aller une deuxième fois, évidemment.
D'accord.
L'offre est valable qu'une seule fois.
Mmh.
Et est-ce que le livre, il faut l'acheter?
Oui, c'est $70.
$70,
oui. Mais c'est vite
remboursé.
Mm-hmm. Parce que finalement, quand on a un plat à $35, ça fait déjà $35 d'économiser.
Ouais.
Sur les 70.
Oui, oui.
Après deux restaurants, au final, le livre, il est déjà remboursé.
Oui, oui, oui.
Donc au final, ça, ouais, ça va très très vite. Mm-hmm. Voilà, je sais que j'aime bien voilà, essayer, etc. D'aller,
Donc si les auditeurs veulent se procurer...
C'est un truc qui est réservé aux gens qui travaillent dans la restauration, en fait. Donc,
Ou le bouche à oreille, après, avec des amis. Ou, voilà,
je crois qu'ils doivent faire un peu des... passer dans les entreprises pour essayer de les vendre, hein, c'est
possible.
Ça, non ? Dans les écoles, dans
des écoles et des associations aussi, c'est caritatif, hein, ce livre. Mmh. Donc l'argent est desservi à est donné à des associations, de nommer. Et par exemple, vous voyez sur le site internet, si vous voulez plus d'informations aussi, il y a un site internet.
Mmh. On vous mettra sur le blog. Mmh.
Ouais. Et ils disent par exemple, il y a plus d'à peu près 5 millions de dollars par an qui sont collectés. Et distribué à différentes associations en Nouvelle-Zélande et Australie.
D'accord. Très bien.
Donc c'est vrai que ça fait aussi plaisir de se dire que c'est utile, que ça va servir à des gens qui ont besoin.
Ouais. Voilà. Et tu te régales en même temps.
Et en plus, on se régale et on découvre de nouveaux lieux à conseiller. Donc,
Et tu dis que c'est assez tendu, il n'y a pas que les restos.
Après, il y a des restaurants, il y a plus des cafés, café-bistro. Mmh. Vous avez une partie café-bistrot, vous avez une partie, c'est plus restaurant familial, plus brasserie, restaurant traditionnel, donc à des prix plus abordables. Mmh. Vous avez une autre catégorie, plus fast-food.
D'accord.
Non, ça, c'est pas des restaurants du tout, ça.
Non, ça, c'est pas des restaurants. On va pas considérer ça comme des restaurants. C'est tout ce qui est à emporter aussi. Donc
tout ce qui est mauvais pour la santé. Tout.
Mais ça peut être aussi, il y a aussi des sushis, du japonais. Ouais. Il y a des donuts, des beignets. Après, il y a une autre catégorie, c'est plus les activités, sport, art, les attractions. Vous avez par exemple le Mota pour aller voir les trains, ce qui était. Voitures, etc. Ouais. Vous avez le
vers
zoo.
Le zoo, c'est ça.
Oui, voilà, tout à fait à côté du zoo. Et vous avez également
c'est vraiment
blanc,
comme les livres de
cinéma.
Les coupons de réduction, en fait.
Ouais, mais c'est vrai qu'il a l'air d'être.
Il est énorme.
Il est vraiment énorme.
Tout à fait.
Il est
rarement
bien aussi gros. Ouais.
Il est vraiment énorme. Mmh. C'est vraiment génial.
Et donc, toi, t'en as déjà essayé plusieurs depuis que t'es arrivé ici.
Tout à fait. J'en ai essayé plusieurs et j'aimerais bien parler d'un précisément, que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai pu aller manger le mois dernier. Mmh. Il s'appelle Artusi Cucina.
D'accord.
Il est basé à Remuera.
D'accord.
Le quartier de Remuera, donc un beau quartier.
Quartier pauvre.
Très pauvre. Ouais.
Il est donc dans un petit village. En fait, ça s'appelle le village vert. Donc, il y a plusieurs entreprises aussi, des petits entrepreneurs qui sont surtout dans le développement durable, etc. Et donc, eux, ils ont leur petit restaurant un peu dans caché. Voilà, c'est vraiment assez excentré, c'est très calme, très très beau, très beau cadre. Et donc si vous avez une cuisine italienne authentique, fait maison, et j'ai vraiment beaucoup aimé. Vous trouvez même les pâtes sont, j'aime beaucoup les pâtes, et les pâtes sont faites maison en fait. La ravioli est fait maison. Voilà, j'ai eu la chance de manger des très bons risottos. Vraiment un très
Et tu
très
disais, c'est une cuisine, pas exactement ce qu'on imagine, parce qu'en italien, on pense pizza bolognaise direct. c'est beaucoup plus fin, tu disais, que ce qu'on trouve d'habitude dans un resto italien.
Tout à fait. J'ai trouvé que c'était cuisiné, enfin plus qu'une pizza, même si on peut dire que c'est quand même cuisiné. Mais là, c'est vraiment le fait, c'est des longues cuissons, ça peut être comme des ragoûts, mais c'est pas un beau mot ragoût, mais c'est des longues cuissons là, avec des saveurs de citron, orange, du veau mariné là. Mais c'était vraiment
très bon.
On sent, c'est très bon. On a eu des côtes de bœuf vraiment là, mais délicieuses, de l'angus, donc c'est vraiment la race de viande ici quand même qui est très très connue et très très bonne. On sent que c'est des beaux produits de qualité. Et ça fait plaisir.
Et donc là, par exemple, un plat principal, il coûte combien dans ce resto-là ?
Alors, il coûte entre 30 dollars.
D'accord.
Si vous prenez viande rouge, ça va être 35 dollars.
D'accord, ok. Et l'atmosphère était sympa ?
Oui, très sympa. C'est très chaleureux. C'est pas très grand. Donc justement, ça garde le côté cosy. C'est en bois. Les lumières sont assez sombres. Mais c'est les bougies sur la table, un service très de qualité. Vraiment beaucoup aimé.
Super. Il y avait, vous avez pris des desserts ou
J'ai pris la panna cotta.
Ah, très bien.
Une panna cotta chocolat vanille,
oui,
avec un coulis. C'était un coulis à la framboise. Ouais, c'était vraiment très très sympa.
Mmh, ouais. Et en choix de vin, j'imagine qu'ils ont des vins italiens.
Vins italiens, oui, tout à fait. Alors moi, je bois pas de vin rouge, mais personne avec qui j'étais du coup aime le vin rouge, donc on est parti sur un merlot,
oui,
merlot italien, et c'était très très sympa.
Oh, ça
accordait bien.
On peut souligner, bon, ça c'est pour, comme on disait, c'est pour les gens qui ont un peu d'argent, et pour les gens qui ont pas d'argent, s'il y a des auditeurs qui nous écoutent, il y a beaucoup de gens dans le besoin à Auckland, hein, il y a pas que des gens qui ont des sous. Il y a un restaurant à Sandringham qui s'appelle Paradise, un restaurant indien,
ouais,
qui en fait offre des repas à ceux qui sont dans le besoin. Donc si vous connaissez des gens qui sont dans le besoin, tous les jours ils offrent des repas, et c'est dès l'entrée, il y a même pas besoin de demander, il faut se servir. Et...
D'accord. Et c'est un resto, c'est-à-dire que si on veut manger et payer pour son repas, on peut payer.
Voilà,
c'est
tout
ça.
À fait.
Mais si, comment ça fonctionne exactement, tu sais?
Bah, à l'entrée, t'as un espèce de petit dispensaire, et avec du riz et puis une espèce de curry, c'est assez épicé.
Mm-hmm.
Moi, je l'ai essayé quand j'avais pas de sous, quoi. Mm-hmm.
Et c'est un super endroit à connaître, alors. Ah,
et apparemment, les gens qui fréquentent le resto, qui achètent les repas, disent que c'est très bon.
D'accord.
Donc, on peut souligner quand même ce resto,
ouais,
hein, pour les gens
qui n'ont
rien à manger, quoi.
Ouais,
et il y en a un paquet à Auckland.
Ouais,
il y a du boulot, hein. La nouvelle première ministre a du boulot.
Donc, est-ce que tu nous parleras d'autres endroits comme celui-là?
Avec plaisir.
Ouais.
Oui, je vais essayer d'autres endroits. Oui.
Bon, super, on compte sur toi. Merci beaucoup, Laura.
Merci.
Tu as une petite musique?
On va se passer une petite musique,
ouais,
et après on...
Et donc, on va essayer de se mettre en contact avec Anne-Catherine pendant...
Très bien.
La musique.
Is
Voilà, donc...
La superbe Néné Thierry.
Oui.
Avec Youssou N'Dour.
Très bien.
Voilà.
On va commencer, en fait. On commence aujourd'hui une collaboration dont on parle depuis un petit moment avec Anne-Catherine Béru. Donc, Anne-Catherine a une émission qui s'appelle Paris s'éveille et qui passe à Christchurch sur une radio qui s'appelle Plain FM. Et donc, voilà. Donc, la façon dont on va fonctionner avec Anne-Catherine, ça va être en fait, on va avoir des sujets qu'elle présente sur elle-même sur sa radio et voilà, on va pouvoir faire un échange comme ça.
On va voir si elle nous entend.
Anne-Catherine, est-ce que tu es en ligne?
Je crois pas pour l'instant.
Non, on va réessayer. Anne-Catherine?
Toujours pas.
Non, ça n'a pas l'air.
On va peut-être qu'elle rappelle, hein, je pense. Hein.
C'est en même temps ça clignote. Non. Anne-Catherine? Non, on va essayer de. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous passer l'émission. On va vous passer l'émission maintenant. C'est une interview en fait qu'Anne-Catherine a faite de Xavier Bellagambas, qui est donc un spécialiste en tremblement de terre. Elle nous en parlera plus précisément lui-même. Parle très bien de son travail et il étudie plus précisément à Christchurch la résilience des réseaux souterrains. Donc c'est c'est bien spécialisé et donc il en parle dans cette émission, dans cette interview d'Anne-Catherine Béru qu'on essaiera de parler, avec laquelle on essaiera de parler juste après l'émission.
Très bien, on écoute.
C'est parti. Hein?
On va demander à Anne-Catherine de nous rappeler aussi.
Oui. Hein?
De Christchurch, c'est ça?
Oui.
Ouais.
Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures. Paris s'éveille, Paris s'éveille.
Bonjour, vous êtes sur Paris s'éveille, radio francophone sponsorisée par l'Alliance française de Christchurch. Mon invité d'aujourd'hui est Xavier Bellagambas. Bonjour Xavier.
Bonjour.
Merci d'être là. Binational franco-suisse, vous avez grandi en Suisse et vous êtes diplômé de l'École polytechnique fédérale de Zurich en génie civil. Vous avez développé un intérêt pour le sismique lors de votre travail de master et le poursuivez ici à Christchurch en réalisant à l'Université de Canterbury un doctorat intitulé « Seismic Resilience of Underground Lifelines » sous la supervision de Brendan Bradley et grâce au financement de QuakeCore. Vous êtes à présent dans votre deuxième année doctorale. Comme le savent nos auditeurs, Christchurch a été très endommagé par la série des tremblements de terre de 2010-2012. Le bilan humain et matériel est lourd, avec près de 80% du centre-ville détruit des suites du tremblement de terre de 2011. 185 morts, le CBD bouclé par l'armée par endroits jusqu'en 2013, ainsi que des centaines de maisons endommagées irréparablement. Votre recherche, Xavier Bellagambas, s'intitule pour le moment « Seismic Resilience of Underground Lifelines ». Et donc, vous vous y intéressez en fait à la manière dont les lifelines, le réseau d'eau en particulier, ont été impactés par les tremblements de terre et comment, par conséquent, on pourrait à l'avenir optimiser leur réparation, c'est-à-dire les remettre en fonction dans le temps le plus court possible après un tremblement de terre. Est-ce que c'est à peu près juste?
Oui, c'est à peu près ça, en effet. Pour être un peu plus précis, donc, le but de ma thèse est vraiment d'explorer donc, la résilience des réseaux souterrains, comme vous l'avez mentionné, c'est-à-dire étudier la vulnérabilité des différents composants du système, par exemple, quelle est la chance qu'un pipeline casse en cas de tremblement de terre, d'estimer aussi la serviceabilité des systèmes après une catastrophe, à savoir le nombre de foyers n'ayant plus accès à un service, par exemple, et ensuite, vous l'avez déjà mentionné aussi, l'optimisation de la restauration de ces services, en gros, comment est-ce qu'on pourrait aller plus vite pour redonner accès à ces services aux gens. Un autre aspect de mon travail que vous n'avez pas mentionné est la quantification des besoins financiers à la maintenance d'un réseau enterré en fonction de l'aléa sismique régional. Pour développer ces différents éléments, j'utilise le réseau d'eau de Christchurch qui est relativement riche en données. Et ce faisant, j'espère pouvoir développer des outils qui permettront de rendre la société néo-zélandaise un peu plus résiliente aux tremblements de terre.
Mmh. Donc, vous travaillez en particulier sur les réseaux d'eau, donc les lifelines. Faudrait peut-être juste les définir pour les auditeurs au passage.
Oui, alors les lifelines, c'est vrai que c'est pas forcément une définition évidente. Désolé de ne pas avoir précisé. Donc, par lifelines, en général, on va entendre tout ce qui est réseau électrique, réseau d'eau usée, un réseau de télécommunications, de gaz, d'essence. On parle des routes, du rail. Et aussi, certaines définitions s'accordent aussi à dire que l'infrastructure critique, à savoir les hôpitaux ou les écoles, en font aussi partie.
Mmh. La vie des Cantabriens a été donc extrêmement bouleversée par les tremblements de terre que j'ai mentionnés, à savoir le 7.1 de septembre 2010 et le 6.3 de 2011 en particulier, qui a été très, très ravageur. Et pour le commun des gens, on se dit 6.3, c'est inférieur à 7.1 sur l'échelle de Richter, donc on s'attendrait à moins de dégâts. Or, ça a été le contraire. Comment est-ce que vous l'expliquez ?
Alors, pour bien l'expliquer, en fait, il faut d'abord que je pose le contexte. Donc, pour un tremblement de terre, il y a trois facteurs, en fait, qui vont avoir de l'importance dans l'amplitude ressentie d'une onde sismique à un endroit donné. Le premier, c'est la source, c'est-à-dire la faille qui a cassé, la magnitude qui en découle, donc l'énergie libérée, et le type de rupture, par exemple. Le deuxième élément important, c'est le chemin que va emprunter l'onde sismique, donc le nombre de différentes couches qu'elle va traverser, le type de couche qu'elle va traverser, et aussi, et bien sûr, la distance qu'elle va parcourir avant d'atteindre le site, qui est le dernier élément. Donc le site, il va être donc caractérisé par une certaine topographie. Est-ce que dans un bassin, dans une vallée, sur un socle rocheux ou ailleurs? Et aussi, et particulièrement, du type de roche ou de sol duquel il est composé. Dans le cas du tremblement de terre de Darfield, donc le premier en septembre 2010, l'épicentre se trouvait à quelques dizaines de kilomètres à l'ouest de Christchurch. Le séisme de février, lui, il a frappé la ville directement dans ses sous-sols. Donc ici, il y a deux facteurs qui sont très importants, c'est la source. Pour le Darfield Earthquake, elle était plus éloignée de la ville, mais elle était plus forte. Et le deuxième, c'est le chemin qu'a parcouru l'onde. Dans le cas de février, était très 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 courte.
Mm-hmm.
La perte d'énergie dans le sol étant relativement grande, le deuxième facteur, donc le chemin, a joué un rôle beaucoup plus grand, ce qui a donc induit des mouvements ressenti à Christchurch beaucoup plus violent lors du tremblement de terre de février 2011 plutôt que celui de septembre 2010. En analogie, on pourrait dire que si on a par exemple deux siffleurs, deux personnes qui sifflent, si vous êtes proche d'un siffleur, même si le deuxième siffleur est plus fort et plus loin, vous allez entendre le premier beaucoup plus fort. C'est un peu ce qui s'est passé.
Et plus récemment, un autre mystère, quelque part, pour le commun des gens, c'est le tremblement de terre de Kaikoura. Un 7.8 dont l'épicentre est tout près de Christchurch, mais en fait qui secoue Wellington beaucoup plus cruellement. Comment est-ce que vous l'expliquez ?
Alors ici, il y a un autre facteur qui est aussi à prendre en compte, c'est ce qu'on appelle la directivité. La directivité, sans rentrer vraiment dans les détails techniques, c'est que la rupture, en fait, de plusieurs failles, de multiples failles, elle va pas se faire d'un coup. Elle va commencer à un endroit et ensuite elle va se propager le long de la faille et aussi se propager dans les différentes failles, dans le cas de Kaikoura. Ce faisant, en fait, les premières ondes, celles qui sont créées au début du tremblement de terre, vont venir en fait s'empiler les unes sur les autres avec les suivantes pour créer une onde beaucoup plus forte devant que derrière. C'est un petit peu en fait comme quand une ambulance passe, quand elle vient vers vous, le son est aigu et relativement fort, alors que quand elle s'éloigne, le son est plus doux et en général beaucoup plus grave. Dans le cas de Kaikoura, la faille a commencé à casser au sud et s'est propagée vers le nord. Du coup, Wellington s'est retrouvé devant l'ambulance alors que Christchurch était derrière.
Oui. Et pour revenir en fait sur le sujet donc des lifelines que l'on a abordé tout à l'heure, 2010 et 2011 en particulier, qu'est-ce que ça a représenté en chiffres ? Comme impact, en fait, sur le réseau d'eau.
Alors, concernant le réseau d'eau, le tremblement de terre de février 2011 a causé 4000 cassures de pipeline, d'eau, donc, dans la ville. Et selon une estimation faite en 2013, la réparation de l'infrastructure, donc globale, eau, électricité, routes, égouts, etc., a coûté près de 6 milliards de dollars. Concernant le nombre de personnes qui auraient été privées d'eau, il y a seulement très peu d'études qui ont été réalisées sur ce sujet, si pas aucune. Et l'estimation de ce nombre fait en fait partie de mes objectifs secondaires. Donc pour l'instant, je ne l'ai pas encore calculé. Il faudra attendre quelques mois de plus.
Et on pourrait dire que les Canterburiens sont en quelque sorte des experts de tremblements de terre parce qu'ils en ont vécu beaucoup et ils sont très résilients au phénomène. À quoi est-ce que vous l'attribuez ? Est-ce que c'est une forme de flegme ? Est-ce que c'est l'habitude parce que la ceinture de feu est très active ? Ou est-ce une posture politique ?
Alors c'est clair que c'est en forgeant qu'on devient forgeron, c'est-à-dire que les gens d'ici ont malheureusement l'habitude d'avoir affaire à des tremblements de terre très importants et du coup ont appris à réagir à ces tremblements de terre grâce aux différentes formations et séances d'information données dans les écoles notamment. Un deuxième facteur qui explique aussi la résilience accrue de la Nouvelle-Zélande face à ce risque, c'est que le gouvernement investit énormément dans les capacités d'intervention et de recherche, rendant en fait toute la société néo-zélandaise beaucoup plus résistante parce que mieux préparée.
Et vous qui êtes né dans un pays où il y a peu de tremblements de terre, ou du moins peu que l'on sache, qu'est-ce qui vous a amené à vous y intéresser ?
Alors, il y a plusieurs raisons qui m'ont amené à intéresser. La première est, somme toute, très égoïste. C'est simplement que le génie parasismique ou l'ingénierie des tremblements de terre est beaucoup plus amusante parce que beaucoup plus complexe. C'est quelque chose qui bouge, contrairement à un bâtiment. Les mathématiques sont plus un peu plus poussées et ça demande aussi plus de réflexion. En gros, c'est un peu plus sympa à faire. La deuxième raison, c'est la sensation d'être aussi utile à un beaucoup plus grand nombre que lorsqu'on fait un design simple. Et finalement, lors de mes études, une raison très humaine, c'est que je me suis très bien entendu avec les gens qui m'ont enseigné ces matières et mes superviseurs qui m'ont poussé jusqu'ici dans cette direction.
Et Christchurch ayant souffert justement de tous ces événements qu'on a mentionnés, est-ce qu'on pourrait dire quelque part que ça a fait de cet endroit un pôle d'excellence pour la recherche sismique ? Et c'est aussi une des raisons, j'imagine, pour lesquelles vous seriez venu à Christchurch ?
Alors après les tremblements de terre de septembre 2010 et de février 2011, ainsi que juin et décembre, faut pas les oublier, il y a en effet beaucoup de chercheurs internationaux qui sont venus étudier le cas Christchurch. Ceci a énormément contribué à la renommée de la ville et de l'université dans le domaine, et c'est la raison principale de ma présence, oui. Maintenant, il y a aussi de nouveau une raison plus humaine, c'est mon superviseur, professeur Brendan Bradley, qui est une sommité dans son domaine, qui m'ont aussi convaincu de venir ici.
Et vous êtes aussi un Quake Corps scolar, pardon. Qu'est-ce que ça signifie en fait ? Quel est le rôle de Quake Corps dans la recherche ?
Alors Quake Corps, c'est un institut de recherche national qui a pour but d'étudier les différents aspects de la résilience sismique de la société néo-zélandaise. Par exemple, on va développer de nouveaux outils pour calculer le risque ou estimer les dommages structurels, ou alors quand même l'impact économique des séismes. Et cet institut, donc, est financé par le gouvernement néo-zélandais et il a des membres dans toutes les universités majeures du pays.
Est-ce qu'on a des organismes similaires dans d'autres pays que la Nouvelle-Zélande ?
Oui, alors à peu près tous les pays qui ont un risque sismique accru ont des instituts de recherche tels que celui-ci. Aux États-Unis, c'est parti du NIST. En Europe, on a différentes attitudes. Donc, il y a l'Eurocode qui est pour les bâtiments, pour l'Union européenne. En Suisse, on a la SIA qui s'occupe de ça, mais le risque sismique est géré par le SED, le Schweizerische Erdbebendienst. Autrement, au Japon, ils ont aussi un institut de recherche, mais je ne me souviens plus du nom. Il y en a un peu partout.
Et en Europe, qu'est-ce qu'on peut apprendre quelque part de la douloureuse expérience de Christchurch ? Parce que les secousses sont relativement fréquentes, hein, encore récemment en Italie et en Grèce. Et pourtant, on a l'impression que les bâtiments sont moins résistants presque.
Alors les choses qu'on pourrait éventuellement apprendre à Nouvelle-Zélande en Europe, c'est possiblement la masse de données que les Néo-Zélandais récoltent après chaque tremblement de terre qui permet de faire avancer la recherche de manière énorme. L'autre chose, c'est possiblement la prévention par l'information. En Suisse, par exemple, là où je viens, le risque sismique existe. Alors c'est clair qu'il n'est pas aussi important que le risque néo-zélandais, mais il existe et il reste malheureusement méconnu de la population, ce qui le rend en fait plus dangereux, parce que les gens ne sont pas du tout préparés à ça. Donc à mon avis, les gouvernements européens, s'ils ne le font pas déjà, devraient probablement mettre l'accent là-dessus pour améliorer la résistance des populations. Concernant les bâtiments, je pense pas que les nôtres soient plus fragiles. Disons qu'ils sont plus vieux, historiques pour certains. Ils sont donc un peu plus vulnérables, en effet. Il est possible toutefois de les rétrofiter, c'est-à-dire de les rendre plus résistants au séisme, mais ça coûte relativement cher. Et je doute que pour le moment, l'Europe a les moyens de se protéger intégralement du risque sismique. Mais je vous rassure tout de suite, les bâtiments dits critiques, donc les bâtiments du patrimoine, ou les bâtiments vraiment importants, ou ceux qui montrent des faiblesses vraiment trop grandes par rapport à ce qu'on s'imagine, au risque auquel on s'attend, sont rétrofités, ça, je vous rassure.
Donc, en fait, quelque part, l'information joue un assez grand rôle dans la prévention du risque, quand même.
Et oui, énormément, oui.
J'aimerais mentionner au passage le film The Art of Recovery. Donc, c'est un film documentaire de Peter Young dont la première a eu lieu le 13 août 2015 lors du New Zealand Film Festival au Isaac Theatre, ici à Christchurch. Et le film raconte la reconstruction de la ville après 2011 et montre comment artistes, entrepreneurs, tagueurs de rue et autres esprits créatifs se sont réappropriés les rues sous le chaperonnage de différentes associations, Gap Fillers, Life in Vacant Spaces, etc. Plein d'initiatives dites transitionnelles ont vu le jour et ont permis aux gens de se réunir et de recréer quelque part un sens de la communauté. Il y a eu le Dansomat, le Smash Palace, le Vista Art Mall, etc. La recovery, ça passe par les lifelines, mais aussi par le retour à la vie. Déjà, est-ce que vous avez vu le film ?
Oui.
Voilà. Alors, quel rôle est-ce que vous pensez que l'art peut jouer, pourrait jouer à l'avenir dans la reconstruction d'une société touchée par une catastrophe du genre ?
Alors, reconstruire l'infrastructure, c'est bien, mais faire rester et vivre la population, c'est mieux. Du coup, je pense que ces éléments que vous avez cités, comme le Restart Mall, le Smash Palace ou le Dansomat, sont d'excellentes initiatives pour permettre à la population de s'exprimer et de vraiment libérer les émotions qu'on peut s'imaginer avoir après avoir vécu des événements pareils. Donc, à mon avis, ce genre d'initiative devrait être en tout cas supporté par les gouvernements de manière très importante afin que la population se sente toujours concernée par la restauration de la ville et aussi qu'ils ont envie d'y rester. Donc, une fois que les services, disons, les services nécessaires à la vie de la communauté sont restaurés, comme l'eau ou l'électricité, je pense que c'est vraiment là que les gouvernements doivent agir.
Mm-hmm. Merci, Xavier Balangomba, d'avoir été avec nous.
Merci à vous de m'avoir invité.
Voilà. Donc une interview qui finit sur une touche humaine dans un domaine qui est assez spécialisé au bout du compte. Alors on réessaye. Anne-Catherine, est-ce que tu es en ligne avec nous ? Allô ? Anne-Catherine ?
Anne-Catherine ? Personne ?
Anne-Catherine ?
Toujours personne. On va lui demander de rappeler, hein ?
Oui, si on y arrive, c'est un peu compliqué.
Ça veut dire qu'on a les instructions, mais les touches ont été effacées avec le temps, si vous voulez. Quoi. Okay.
Bon, écoute, tant pis. De toute façon, on retrouvera Catherine une autre fois. Elle va intervenir en live probablement sur Amuse-Gueule avec nous et par le biais justement de ces interviews comme on l'a fait aujourd'hui pour pouvoir partager justement ce qu'elle fait écouter en fait son émission Paris s'éveille à Christchurch. On écoute une petite musique.
On va écouter une petite musique. Je voudrais, le temps de la trouver, je vais quand même vous parler du concert d'Alice Cooper qui a eu lieu à Anderson, oui. À Trust Stadium. Mm-hmm. Donc Alice Cooper, oui. Blandine, tu connais pas ?
Non, je connaissais pas.
Donc Alice
Cooper. Mets pas le couteau dans la plaie, s'il te plaît.
Non, mais de toute façon, il y a plein de choses en musique. Moi, je connais peut-être 1% de la musique qui existe, mais Alice Cooper, on peut le situer au même niveau que Bowie, que les Stones, les Beatles, Lou Reed, bien sûr, Neil Young. Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a commencé à produire de la musique dans la fin des années 60. Et il a vécu une carrière assez bipolaire, on va dire, avec beaucoup d'alcool, beaucoup de dépression. Et il est passé par des stades différents. Mais on l'a trouvé en grande forme au Trust Arena et il a quand même fait un show qui est assez démentiel quoi, pour son âge. Je sais pas comment, il a peut-être l'âge des Rolling Stones, ouais. À mon avis. Ouais. Et il y avait pas mal de monde aussi. C'est un peu de la musique un peu plus, comment dire, assez noire, assez théâtrale, on va dire. Avec beaucoup de bonnes lumières et tout ça quoi. Donc c'est sympa et à Auckland comme vous le savez il y a beaucoup de bonne musique. On peut parler aussi de deux séries anglaises qui s'appellent Derek, une série avec Ricky Gervais, je sais pas si vous connaissez, c'est lui qui avait fait The Office. Très très bonne série de Ricky Gervais, Derek, donc qui se passe dans une maison de retraite. Donc pour les gens qui sont intéressés par l'humour anglais, c'est Ricky Gervais. Et puis une autre série qui s'appelle Green Wing, qui se passe dans un hôpital, très très marrant aussi. Donc pour les aficionados de la musique anglaise, de l'humour anglais, on va dire. Il y a un peu l'humour grinçant, type Monty Python. Et il y a d'autres choses qui se passent à Auckland en attendant l'appel de...
Pas ma connaissance, elle est en ligne.
Elle est en ligne, on va essayer encore de nouveau. Vas-y. Anne-Catherine. On essaie de la contacter à Christchurch. Il y a Blandine qui manipule tous les boutons en direct live. Ah. Voilà, bon, si on n'y arrive pas, on réessayera un peu plus tard.
Hein. On ne va pas réessayer aujourd'hui parce que je crois qu'on est maudit, comme disent nos amis québécois.
On est maudit, tu penses ?
Avec ce téléphone.
D'accord.
Anne-Catherine ? Non. Bon, écoute, je crois que décidément, la machine est contre la technique et contre nous ce soir. On essaiera, on parlera directement avec Anne-Catherine, on y arrivera, on fera ça avec une autre émission.
Allô ?
Ça y est, on l'a.
Voilà, je dirais que la technique est avec nous.
Bon, très bien. Écoute, voilà. On appuie sur tous les boutons, ça finit par fonctionner. À l'aveugle. Oh, bah, c'est super de t'avoir. Donc, on a écouté cette interview là qui était très, très intéressante. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus de cette interview?
Oui, bien sûr, de l'interview en particulier ou de la radio et du projet un peu.
Du projet aussi, mais bon, l'interview justement, je disais ce que j'ai bien aimé, c'est qu'elle finit sur une note très humaine en fait, parce que c'était quand même, il y avait des informations relativement techniques, mais ça reste quelque chose. Et j'imagine que quand on est à Christchurch, c'est un sujet qui est quand même assez important là-bas quand même. Ça reste encore. Est-ce que ça fait encore partie de votre quotidien à Christchurch?
Oui, alors récemment ça s'est calmé quand même. On est dans une période d'activité, disons assez, enfin d'inactivité, j'ai envie de dire.
Oui.
Mais c'est vrai que toute l'année passée, il y avait quand même assez régulièrement des tremblements de différentes envergures, en particulier celui de Kaikoura qui était quand même assez violent.
Oui.
Donc oui, ça fait quand même partie un petit peu du quotidien. Sur l'île du Sud, mais sur l'île du Nord, je crois que vous avez des secousses assez fréquentes.
Oui, en tout cas, sur le Kaikoura, on l'a senti, je crois, presque plus dans l'île Nord que dans l'île Sud, bizarrement, même si c'est...
Oui, alors, il en parlait dans l'interview, justement, il y a eu un effet de réverbération vers le Nord. C'est que, finalement, nous, à Christchurch, tout le monde s'est retourné un peu en nous demandant si tout allait bien, mais en fait, on a eu moins d'impact que ceux qui étaient à Wellington.
Est-ce que ça crée un sens de communauté à Christchurch, justement, ces tremblements de terre à répétition, avec les répliques, etc.?
Oui, alors, c'est un petit peu ce qui a été observé après les événements de 2011, et puis je crois qu'on parle justement de ce film, The Art of Recovery. Il y a eu vraiment... plein de mouvements comme ça des gens en fait qui voulaient se réapproprier l'espace urbain, qui voulaient retrouver un sens de la communauté en fait, et qui sont réunis parce que il y a eu quand même 2 à 3 ans pendant lesquels le centre-ville était complètement fermé et barricadé par l'armée. Ouais. En tout cas par endroit. Donc il y a eu plutôt des initiatives comme ça populaires en fait pour recréer un sens de la communauté. Mais c'est vrai que depuis 2 ans maintenant, à peu près 2 ans que je vis à Christchurch, on sent que le centre-ville se reconstruit extrêmement vite et petit à petit la vie y revient en fait.
Oui, d'accord.
Ouais.
Alors, est-ce que tu peux nous parler plus précisément de ton émission de radio? Comment tu es venue à la commencer? Qu'est-ce qui t'a donné envie de commencer une émission de radio?
Alors, envie, disons que dans mon parcours, j'ai fait un petit peu de journalisme et j'ai toujours beaucoup aimé tout ce qui était en lien avec les arts, la culture et le langage, en fait. Mmh. Et ici, à Christchurch, j'avais envie justement de retrouver quelque chose. On parlait de sens de communauté, c'était un peu ça aussi. Envie de pouvoir parler en français aussi, de partager un peu les mêmes référents culturels avec d'autres gens.
Oui.
Donc c'est un petit peu ça qui a fait que je me suis lancée là-dedans. Et donc c'est une émission qui s'appelle Paris s'éveille. Pour le moment, ça a lieu qu'une fois par mois, en fait tous les premiers jeudis et vendredis du mois. Et je suis en train de négocier pour éventuellement le faire plus fréquemment, donc toutes les deux semaines. Et ça a commencé il y a à peu près 5 mois, cette aventure, et ça est sponsorisé par l'Alliance française de Christchurch.
D'accord.
Dont la manager est Morgane Jaffry, qui était une de mes premières invitées. Donc c'était un peu ça, l'aventure de la radio. Et puis j'y parle, en général je commence par une petite section nouvelle, que je fais en général quand même en bilingue, parce qu'on a quand même une audience un petit peu mixte, avec des gens qui apprennent le français et des choses comme ça.
Mmh.
Ensuite, il y a un invité francophone.
Oui.
Qui vient souvent d'une spécialisation X ou Y, parce que c'est assez intéressant de parler avec des gens qui ont une expertise dans un sujet. Et puis ensuite, soit un petit sujet, soit un agenda culturel, un petit peu de ce qui se passe à Christchurch. Et puis, entre deux, de la musique française. Et j'ai remarqué qu'on avait des goûts musicaux assez similaires.
Bon, c'est bien. On a Yvan à la technique aujourd'hui. Et lui, c'est notre... Il a une réserve de musique incroyable.
C'est votre gourou, ouais. C'est notre gourou de musique. D'après ce que j'ai pu comprendre. Ouais.
Ça s'appelle Spotify, réserve
de
musique.
Oui, mais bon, tu me donnes Spotify, je fais pas la même chose avec.
Hein.
Il faut avoir une certaine connaissance quand même. Et donc, qu'est-ce qui t'a amené? Tu es en Nouvelle-Zélande depuis combien de temps?
Ça va faire 2 ans, en fait, gentiment.
Mmh.
En fait, je suis venue ici avec mon partenaire, en fait, qui est chercheur dans le génie sismique.
D'accord.
Mais moi, je viens d'un univers assez différent de la construction et... De base, j'étais violoniste classique, en fait.
Ah oui, d'accord.
Donc, c'est assez différent. Voilà. Ouais. Je fais une partie de mes études de violon à Londres, au Royal College of Music. Et puis, j'avais aussi un background dans lettres.
Oui.
Et puis, j'ai dû arrêter de jouer à cause d'un problème de bras, malheureusement.
D'accord.
Je me suis tournée vers tout ce qui était management culturel et les médias, justement, un petit peu le journalisme et les choses comme
d'accord. Ça. Ok. Et donc, parce que moi je suis un petit peu de la même branche, en tout cas littéraire et culturelle aussi. Et ça a été assez difficile en arrivant en Nouvelle-Zélande pour moi, parce que justement j'avais un peu le problème du langage, mais surtout pas du tout le même
centre d'intérêt.
Le même nombre, en fait. C'est vrai que les personnes ici sont beaucoup plus intéressées par le sport, par la nature et par le.
Ouais.
Et du coup, c'est vrai que ça a été un petit peu un sentiment de vide quand même en arrivant ici, notamment pour le travail.
Bon, c'est
bien.
Et d'autant plus sur l'île du Sud, croyez-moi.
Et encore moins. C'est vrai que nous, à Auckland, on commence à avoir il commence à y avoir de plus en plus d'initiatives, en tout cas autour de l'art. Ça commence à, je trouve que ça se développe. Moi, je suis là depuis une douzaine d'années.
Ah
et
oui.
Je trouve que les choses se développent, sont quand même un peu plus développées que ce qu'elles étaient quand je suis arrivée. Donc, il y a peut-être peut-être espoir, mais c'est vrai que c'est pas le même genre de. On n'est pas dans un pays européen, c'est assez différent pour ça.
Oui, c'est une histoire plus jeune. C'est vrai qu'il n'y a pas le même, le même nombre d'années, ouais. Quoi. Simplement la même accumulation comme ça. L'impression de.
On fait souvent la différence entre Wellington et Auckland, justement. Wellington étant une ville plus arty, on va dire plus.
Oui.
Comment tu décrirais Christchurch à ce niveau-là? Est-ce qu'il y a quand même une vie artistique un petit peu ou
Alors elle est assez cachée. Mmh. J'aurais tendance à dire, en arrivant, j'aurais eu tendance à dire qu'il y en avait pas parce que j'en voyais peu. Mais il y a quand même, il y a quand même un grand théâtre qui s'appelle Isaac Theatre avec de temps en temps des productions d'opéra et des choses comme ça. Et puis quelques salles de théâtre. Mais il y a plus une scène un peu alternative, j'ai l'impression en fait.
D'accord.
Mais sinon, oui, c'est à mon avis si Wellington occupe la première place. Auckland doit occuper la deuxième et Christchurch la troisième.
D'accord.
Est-ce qu'il y a un orchestre symphonique
Oui, Christchurch. Ouais.
Ouais.
Le Christchurch Symphony Orchestra.
Est-ce que tu es au courant de ce qu'ils ont fait à Auckland, l'orchestre symphonique? Ils ont fait une production qui s'appelle Symphony et ils ont repris de la musique dance, là, des tubes dance. Moi, je suis pas très pointu dans la musique dance, mais en tout cas, j'y suis allé et j'étais très surpris de que tout le monde était à fond, quoi. Le public était à fond et ça m'a surpris de voir l'orchestre symphonique faire une chose comme ça, quoi. Est-ce qu'ils font comme ça, des choses aussi extravagantes à Christchurch?
Pas à ma connaissance, mais je sais qu'ils ont changé un peu de direction marketing entre guillemets depuis quelques années, parce que ils étaient plus conservateurs dans le passé, et puis je sais que en ce moment ils font beaucoup plus de projets pour essayer de intégrer le public un maximum, notamment de temps en temps ils se produisent dans les librairies ici à Christchurch, donc il y a quand même pas mal de recherches de renouvellement. Après, je pense qu'ils ont aussi probablement une base d'auditeurs assez loyale, et je les ai pas vus faire quelque chose d'aussi déjanté, on va dire. Que
En tout cas, c'était un succès. C'était complet. Les gens dansaient. C'était la folie.
Oui,
hein, j'ai pris des petites vidéos pour montrer à ma sœur qui est... ma sœur, elle est secrétaire de l'Orchestre Philharmonique à Montpellier. Ça l'a surpris énormément.
C'est un peu le je veux dire pas le revers, mais l'endroit de la médaille, en fait, je trouve ici, c'est que justement il y a une, on parlait de cette histoire, le fait que ce soit un pays jeune, mais il y a aussi une, on ose plus faire les choses, en fait. Je crois que dans nos pays européens, on est quand même très, le poids de l'histoire est très très lourd, et du coup on arrive à faire des choses ici qu'on ne peut absolument pas faire en Europe, je crois.
Tout à fait.
Après, bon, moi j'ai fait une partie de mes études à Londres et j'avoue qu'ils ont quand même une scène alternative qui dépote, quoi.
Ouais, Londres, c'est quand même le lieu peut-être le plus créatif de la planète, à mon avis. En tout cas, ça a été
Londres,
quand
j'y étais. Il y a quand même des scènes beaucoup plus underground comme ça. Mais je suis d'accord pour dire qu'il y a quand même quelque chose de très libéré ici, à contrario, qui est agréable.
Et il y a des bons groupes à Christchurch. Tu peux nous donner quelques noms? Le groupe.
Des groupes de musique, du coup, plutôt...
Kiwi, quoi.
Tu veux dire
la musique alternative, la bonne musique alternative kiwi, quoi. Comme on aime bien.
Je vais me renseigner un peu et puis je vous ferai une liste.
Ah, très bien, ok.
Pour le moment, je n'en connais pas beaucoup, mais...
Parce que dans le passé, dans les années 80, c'était la scène de Dunedin. Et les groupes se produisaient un peu partout, hein, Christchurch, Auckland, mais c'est la musique, la création musicale des groupes de Flying Nun, The Clean, Tall Dwarfs, tout ça, c'était basé à Dunedin.
Mais est-ce que c'est parce que c'est une grande ville étudiante, justement?
Probablement,
oui. Je crois qu'il y a quand même pas mal de groupes pop ici. Je dois avouer que je connais simplement moins... ce genre-là, en fait.
Ouais.
Mais je pourrais me renseigner. Ils ont réouvert tout récemment, en fait, un bar musique live qui s'appelle Fat Eddie's, qui était très actif avant les tremblements de terre, et il vient de réouvrir. Et en fait, j'ai entendu en tout cas une soirée là-bas, et c'était vraiment chouette. Donc il y a aussi toute cette vie-là qui est en train de pouvoir reprendre maintenant, quand même, avec la réouverture des endroits, en fait.
Non, c'est très bien. Écoute, on est impatients de continuer à collaborer avec toi et pouvoir échanger dans un sens et dans l'autre nos visions. Je pense qu'on est sur la même longueur d'onde. Voilà, les ondes sont partagées entre Christchurch et Auckland, mais ce sera avec grand plaisir. Ça a été un plaisir d'écouter ton interview et de pouvoir te rencontrer en direct.
Ben, le plaisir était pour moi. Je vous remercie. Et je me réjouis aussi de continuer cette collaboration.
Merci à toi, et on va faire un petit clin d'œil à ton émission. On va passer la chanson de Dutronc.
Voilà.
Hein, c'est ça?
Oui.
Ah, bah ouais, sympa.
Très bien, à la prochaine fois.
Oui, à la prochaine.
Au revoir, Catherine.
Au revoir.
Ciao.
Les camions sont pleins de lait, les balayeurs sont pleins de balais. Il est 5 heures. Paris s'éveille,
se raser, les stripteaseuses sont rhabillées. Les traversins sont écrasés, les amoureux sont fatigués. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Le café est dans les tasses, les cafés nettoient leurs glaces. Et sur le boulevard Montparnasse, la gare n'est plus qu'une carcasse. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les banlieusards sont dans les gares. On tranche le lard. Paris by night regagne les cars. Les boulangers font des bazars. Il est 5 heures. Paris s'éveille. Paris s'éveille. La tour Eiffel a froid aux pieds. L'arc de triomphe est rallumé. Et l'obélisque est bien dressé entre la nuit et la journée. Il est 5 heures, Paris s'éveille. Paris s'éveille. Les journaux sont imprimés, les ouvriers sont déprimés. Les gens se lèvent, ils sont brimés, c'est l'heure où je vais me coucher. Il est 5 heures, Paris se lève. Il est 5 heures, je n'ai pas sommeil.
Voilà, Dutron.
Alors on va revenir sur sur Auckland. Et à Auckland, il y a des petits endroits sympas quand même, Laura.
Oui, très sympa.
Alors toi, tu nous parlais, donc c'est samedi, tu es allé à un endroit que tu adores, c'est ça?
Oui, tout à fait, samedi soir. Ça s'appelle Night Market and Pakoranga.
Oui.
Donc c'est dans l'est, sud-est d'Auckland. Et en fait, c'est toute une soirée, donc c'est à partir de 17h30 jusqu'à minuit. C'est dans le sous-sol de la warehouse.
D'accord.
Et donc du coup, il y a plus de... Enfin, c'est plus un parking, ça devient en fait un grand marché avec plein de... D'étals de différents pays. En fait, on voyage, j'ai l'impression de faire un tour du monde.
Mais tu peux, en fait, en une heure. T'achètes des légumes ou c'est des petits restos?
Qu'est-ce que c'est des petits restos, en fait. D'accord. Ils cuisinent et ils proposent. Alors, il y a des exemples de ce qu'ils font.
Ouais.
Donc, ils mettent des plats, des exemples, et du coup, on montre ce qu'on veut. Et donc, du coup, on peut, par exemple, une personne, moi j'étais avec mon ami, et du coup, lui il a pris quelque chose, enfin, du japonais, moi j'ai pris vietnamien,
oh,
et on a fini par un dessert de Hong Kong.
Oh,
ouais, c'est vraiment chacun ses envies, on peut choisir, on va acheter, enfin, où on veut.
Il y a des petites tables.
Voilà, tout à fait, il y a des tables, des chaises, il y a même de la musique.
Ouais,
enfin, c'est vraiment donc on peut parler japonais, on peut manger thaï, coréen, on peut manger chinois, on peut manger méditerranéen, on peut manger turc, on peut manger plus kiwi avec le burger quand même qui reste présent.
Mmh.
Après on peut aller sur de l'espagnol avec la paella, on a le churros.
Oh génial.
On a la glace, on a les gaufres belges. Enfin c'est vraiment un tour du monde.
Donc à Papakura.
Et
Pakoranga.
Pakoranga.
Et ça a lieu tous les samedis soirs.
Tout à fait, tous les samedis soirs. Oui. Tout à
D'accord. Et tu sais si c'est l'hiver et l'été ou
tout le temps à part entre Noël et Premier de l'An.
D'accord.
C'est les vacances. Donc deux semaines.
Pour les gens qui connaissent pas trop Auckland, Pakoranga, ça se situe où par rapport au centre-ville d'Auckland?
Alors du coup, c'est plutôt au sud-est.
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 En direction de Hawick.
Oui.
Hein, c'est
tout
ça
à fait. Oui. Après Ellerslie.
Après aussi, Mount Wellington.
Après Ellerslie, tout à fait. Vous avez Mount Wellington, tout à fait. C'est juste à côté de Mount Wellington.
Voilà. Et donc, il n'y avait qu'une seule warehouse là-bas.
Oui, 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 tout à fait. Oui, mais on ne peut pas se tromper. Voilà, tout à fait. Vous ne pouvez pas vous tromper.
Ah, donc à partir de 5h, on mettra ça sur le blog, mais c'est un
5h30, ouais, c'est super. Et il y a exactement la même chose le dimanche soir à Glenfield, donc dans le North Shore.
Dans le mall. C'est dans le mall.
C'est dans le mall, tout à fait.
Dans le centre commercial.
Oui. Hein? Enfin, c'est en dessous, c'est dans le parking.
Ouais, ouais.
C'est toujours dans le parking parce qu'il y a les odeurs, etc. Ouais. Donc ça reste dans le parking, donc ça aéré. Et voilà, c'est la même chose, mais le dimanche soir aussi sur Glenfield.
Alors du coup, c'est chaud quand même. Enfin, ils cuisinent vraiment dans
tout
des casseroles,
tout à fait,
etc.
Tout à fait, tout à fait. Oui, oui, oui. C'est vraiment un petit restaurant qu'ils ont transporté sur un marché.
Et donc, j'imagine que l'atmosphère elle doit être fantastique aussi.
Ah, c'est génial parce qu'en fait, il y a tellement de personnes de toute nationalité. Ouais. Tout le monde parle différentes langues. Et ouais, c'est vraiment une atmosphère... super.
Ah, bah, fantastique.
Vraiment beaucoup aimé.
Oh, merci.
Donc allez-y, allez-y.
Oui, ouais, merci pour cette.
Allez-y,
et
ouais.
Et pas loin.
J'imagine que c'est pas très cher.
Non, c'est prix très abordable. Vous pouvez 7$ pour un bon plat et voilà.
D'accord.
Bien.
Bon, ça te plaît, ça, Yvan, tu
ouais, et ça. On peut parler aussi du marché de Takapuna qui est sympa. C'est le dimanche matin.
Ouais. Ouais,
il y a le marché de Otara qui est super aussi. Ah. Otara.
Ouais,
je crois que c'est le samedi matin.
Aussi, ouais.
Ouais, dans le sud, il y en a d'autres.
Ouais.
Moi, je connais pas.
Ouais.
Il y en a un aussi dans l'ouest. Titirangi, je pense.
Oui.
Il y a beaucoup de choses à Auckland. Ouais. Il y a beaucoup
mais
de...
c'est vrai que je trouve que le principe de petits restos comme ça le soir, c'est
tout
génial.
Fait. Puis,
on va pouvoir se
Il faut y aller, il faut y aller. Allez-y, déplacez-vous, allez-y. Takapuna, c'est sympa. Moi, j'aime bien y aller. Il y a beaucoup de... On fait le tour en une heure, mais c'est un joli petit marché. Et Otara, c'est sympa aussi pour les gens qui aiment bien l'artisanat.
Alors que celui-là, le samedi soir, c'est plus vraiment pour manger, avoir notre dîner. C'est plus enfin pour
c'est moi
c'est pour cuisiner chez nous
aller manger
le marché
à Glenfield et à Pakuranga et puis aller faire dimanche matin aller faire la marche pour dépenser les calories que vous avez ingérées la veille c'est ça
tout à fait.
Oh, très bien bon mais écoutez on s'y retrouvera peut-être tous, les auditeurs d'Amuse-Gueule.
Voilà.
Et puis, merci Laura pour toutes ces bonnes choses. Tu nous as mis l'eau à la bouche. Il est temps d'aller manger maintenant.
Voilà. Dîner. Bon appétit à tous.
Bon appétit à tous.
Bon appétit.
On se retrouve la semaine prochaine, même
dimanche
heure, même lieu. Ouais, dimanche. Et puis, passez une bonne semaine.
Voilà,
et on se retrouve sur Amuse-Gueule. Merci Yvan.
Merci à tous.
Merci Laura.
Merci.
Merci Anne-Catherine, si tu nous écoutes toujours. Et merci Zvi. Pour ta présence.
Voilà.
À très bientôt, au revoir.
Bonne soirée.
Bonne soirée.